cobas.com. Rencontre par Marc Sisman.
Bonjour Lionel Belmondo.
Bonjour.
Vous publiez un nouvel album qui s'intitule « Des clairières dans le ciel ». Un album assez atypique, assez génial et sublime. Je dis ça sans cirage de pompe, toujours facile à dire.
Mais
au-delà du concept assez original, parfois originalité, rime pas obligatoirement avec résultat juste beau, mais c'est un peu le cas. C'est le volet d'une trilogie qui a commencé il y a presque 10 ans.
Ouais, ça fait, oui.
Ouais. 2002, c'est ça?
Ouais, 2002.
De passe-double, on pourrait dire, entre les musiques. Alors, on pourrait dire entre le jazz et la musique classique. Sur ce troisième volume qui prend son titre d'un cycle de mélodies de Lili Boulanger.
Oui.
Orchestration donc pour formation chambre, chœur mixte et percussion.
Mm-hmm.
Donc puisque l'album est enregistré avec l'ensemble Hymne au Soleil, mais aussi avec le chœur national de Lettonie et sa cinquantaine de voix assez impressionnantes. Donc on entend des œuvres de Lili Boulanger, de Messiaen, de Marcel Dupré, de vous aussi, notamment. Comment on arrive, avant même de parler déjà du résultat final qui est impressionnant, comment on conçoit donc comment c'était dans votre tête, c'est-à-dire, est-ce que vous aviez déjà tout ça vraiment de très précis, ou est-ce que ça s'est fait progressivement avec des balises que vous avez posées et au fur et à mesure, pendant l'enregistrement, pendant des phases d'écriture ou de réécriture ou de réarrangement, le projet a évolué?
On peut commencer par la fin en fait. La question, c'est que le projet évidemment évolue quand on a les personnes sur place, et c'est vrai qu'on a réécrit quelques trucs avec Christophe Dalsasso, que je dois citer parce qu'on a quand même depuis l'Hymne au Soleil en fait, on travaille ensemble, on s'est connus, on avait 14 ans donc ça fait un bail maintenant, on partage beaucoup de choses, on se fait découvrir mutuellement beaucoup de choses depuis on va dire une vingtaine d'années maintenant. Alors c'est vrai que le projet, c'est des projets que j'ai toujours dans la tête parce que, en fait, je ne fais jamais un projet sans en avoir un autre ou deux autres derrière, pour l'évolution simplement. Parce que je suis quelqu'un qui pense que la musique ne peut évoluer qu'en groupe. Avec un groupe, mes idoles, ça a toujours été des gens qui ont joué ensemble très longtemps. Ça a commencé avec les big bands. Quand j'étais jeune, de Duke Ellington ou de Count Basie, des gens qui ont joué quand même 20 ans, 30 ans ensemble. Ensuite, il y a eu les fameux quintettes de Miles Davis, le quartet de John Coltrane, tout ça. Hormis le fait de la musique, ça me paraît important. J'entends dans cette musique-là des gens qui ont envie de jouer ensemble. Et d'ailleurs, le jour où ils ont pu jouer ensemble, ils sont séparés pour faire autre chose. Parce que quand il arrive une certaine lassitude, il faut arrêter, passer à autre chose. Mais en ce qui concerne ces projets-là, depuis tout petit, en fait, j'essayais de réunir des gens. Et j'avais une grande frustration quand j'étais au conservatoire, quand j'étais jeune. C'était justement de ne pas pouvoir dire que je jouais du jazz, que j'aimais le jazz.
Ce que j'ai voulu dire, parce que jusqu'ici vous avez dit la musique en groupe, musique, 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 vous avez dit le mot musique tout le temps, vous n'avez pas dit le mot jazz. Est-ce que c'est parce que pour vous finalement c'est la musique avant tout, et dedans il y a des tonnes de choses, comme cet album le reflète?
Exactement. Exactement, c'est-à-dire que le jazz, j'ai jamais trop parlé de jazz. Pour moi le jazz, c'est des gens qui ont réuni plein d'informations. De leur voyage, de leur culture différente, etc., qui ont réuni tout ça, et ce qui a fait ce qu'on appelle la musique jazz aujourd'hui. Quand j'ai invité le vénérable Youssef Latif, on peut dire comme ça, en 2005, la raison qui l'a motivé à venir avec nous, c'était justement cette écriture, c'était pour étudier aussi. Il m'a dit, je veux venir étudier. parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et c'est vrai que mais c'est pour ça qu'il a aujourd'hui 91 ans et qui fait figure de jeune homme, parce qu'il a joué à Marciac cet été avec Ahmad Jamal. Il a joué pendant 2 heures, il a fait 2 heures de concert, il aurait pu en faire 8 heures sans problème. Voilà, donc il y a cette fraîcheur qui reste. Et je pense que Jazz, lui, la première question qu'on lui a posée, je me souviens très bien, c'était Sébastien Vidal qui a posé la question et qui lui a dit: vous qui êtes un grand musicien de jazz, et là il a regardé en lui disant: mais de jazz, c'est quoi ce mot? Et ben, c'est le mot qui définit votre musique. Et donc Youssef lui a dit: non, je préférais qu'on évite ce mot-là, parce que j'ai regardé quelques définitions de ce mot. Déjà, c'est assez péjoratif, j'aime pas beaucoup. Et puis, ce serait vraiment très réducteur de réduire cette musique à 4 lettres. Ce serait vraiment blessant pour des mecs comme Thelonious Monk, comme John Coltrane, comme Charlie Parker. Je préférerais qu'on appelle ça musique. Et effectivement, moi j'ai eu de cesse, depuis que je suis en mesure de comprendre un peu ce qui se passe sur cette terre, et les rapports difficiles qu'il peut y avoir entre les gens, c'est souvent lié à l'argent. Voilà, donc c'est un truc, nous, qu'on a complètement banni, déjà. On passe d'abord tout, avant tout, à la musique. Et donc ce projet d'Hymne au Soleil, c'est frustration, quand j'étais jeune, de ne pas pouvoir dire que j'aimais la musique. Et quand j'étais au conservatoire, il fallait que je dise, j'écoute pas de jazz, etc. Il fallait des interdits. Et un jour, je me suis dit, peut-être que j'aurai la chance de réunir des musiciens de talent qui ont envie de faire quelque chose ensemble. Voilà, donc c'est le départ de cette trilogie, donc, de l'Hymne au Soleil en 2002, avec des musiciens issus d'orchestres nationaux, voilà, par exemple.
Et des musiciens manière pour vous de répondre à la question: qu'est-ce que le jazz, cette trilogie?
Complètement.
Qu'est-ce que le jazz en 2011, même, je serais prêt
ouais, c'est, dire. Ouais, en fait, on part de mélodies, au départ, c'est Lily Boulanger, donc c'est pour ça que ce dernier hommage, on va dire, de la trilogie à cette jeune femme qui est quand même disparue à 24 ans. Cette femme qui laisse quand même quelque chose d'incroyable. Alors, ce qui est incroyable chez elle, c'est qu'en fait, en discutant avec des musiciens de jazz, tels que par exemple, pour ne citer que lui, Wayne Shorter, quand j'ai offert le disque de l'Hymne au Soleil à Wayne Shorter, je me souviens, c'était au Festival de Montréal, et on était là avec Danilo Pérez, que je connais très bien, le pianiste, qui m'a présenté, je lui donne le disque, et donc il prend le disque comme ça, il le met dans son sac, parce que bon, les disques, je pense qu'il doit en avoir, il doit en recevoir 2000 par jour. Il met son disque dans son sac, et puis on commence à discuter, et il me dit, mais c'est quoi la musique?
Il y a quoi là-dedans?
J'ai dit, bien, en majeure partie des compositions de Lily Boulanger. Et là, il s'est levé, il s'est mis au garde à vous, il a salué. Je te jure, il a salué.
Quand c'est Wayne Shorter, ça.
Et j'ai dit, ah bon, il me dit, Lily Boulanger. Lily Boulanger, c'est très important pour moi. Et là, je me suis rendu compte de l'importance. En fait, s'il y en a 2 minutes, et l'histoire est très belle. Parce que moi, ce qui m'a tiré chez Lily, c'était justement que je retrouvais dans la musique de Lily Boulanger, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Bill Evans, Coltrane. J'entendais tous ces gens qui m'ont marqué et qui m'ont permis d'évoluer. Mais sans savoir la vérité, parce que ça, on le dit jamais. C'est écrit dans aucun bouquin, aucun roman, rien du tout. Et donc, Wayne m'a expliqué en fait que c'était un vieux musicien qui lui avait parlé de Lily Boulanger, etc. Et en fait, la Nadia Boulanger, qui est la grande sœur de Lily, pendant la Première Guerre mondiale, puisque Lily Boulanger, pour vous situer, est morte en 1918, est partie avec des scores sous le bras aux États-Unis pour aller aider les soldats américains. Donc elle est partie avec des scores de Gabriel Fauré, par exemple, mais aussi des scores de sa sœur. Et elle a joué la musique de sa sœur aux États-Unis. Et là, il y a quelques musiciens qui ont écouté cette musique, qui ont été absolument sur le cul d'entendre quelque chose de si différent par rapport à ce que les autres écrivaient à l'époque. Ils sont retournés donc après travailler avec Nadia Boulanger, dont par exemple Quincy Jones, qui a travaillé avec Nadia, ça on le savait, l'organiste Rhoda Scott, qui est une vieille amie aussi, qui a travaillé aussi avec elle, qu'est-ce qu'il y avait, Gigi Grice, qui est un saxophoniste beaucoup moins connu, mais qui a travaillé aussi avec, il y avait aussi, comment il s'appelle, elle a rencontré aussi, et c'est lui qui a dirigé, Leonard Bernstein. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, en discutant par exemple avec un saxophoniste qui s'appelle Mark Turner, on parle d'Lily Boulanger. Il y a eu tout aux États-Unis, Lily Boulanger, c'est un héros national.
Ce que j'allais dire, le jazz est plus connu outre-Atlantique qu'ici.
Oui, mais ça, c'est normal. La France, ça a toujours été comme ça. De toute façon, on ne changera jamais.
C'est ce que j'allais vous dire aussi. Même si ce projet, évidemment, a été conçu pour ce qu'il est, avec des idées vraiment artistiques, il n'y avait pas aussi une parce que c'est vrai que les noms de, alors on parle d'elle, mais ça ah oui, du Rufflet ah oui, ou autres sont quand même des noms qu'on ne prononce plus trop, des compositeurs qu'on n'enregistre plus trop.
Bien sûr que
autres,
non.
Évidemment, les spécialistes de musique française
qui bien
s'intéressent
sûr,
vraiment.
Voilà,
mais
y en a
globalement,
trois,
quand on regarde les programmes des concerts, on entend rarement des œuvres de du Rufflet.
Ouais, absolument, absolument. Et moi, je sais. Alors, si vous voulez, j'avais pas d'a priori au départ en 2002. J'ai entendu par exemple le Puy Jésus de Lili Boulanger. J'ai dit, mais qu'est-ce, c'est le blues, ça. C'est le blues, cette histoire, le truc chromatique au début. J'ai dit, mais c'est carrément le blues. Donc, de là découle une grille d'accords, etc. En 2002, il se resituer il y a presque 10 ans en arrière. J'ai failli avoir un procès, moi, pour avoir fait ça. C'est-à-dire qu'on a été confronté.
Qui vous a attaqué?
On ne nous a pas attaqué, mais on ne nous a pas donné la permission de sortir le disque alors qu'il était mixé. On avait tout produit avec mon frère à l'époque. Et c'est la Fondation de France qui nous a dit, hop, halte là. Gardien.
Oui, c'est ça,
garde en parlez-vous cet, oui, cet homme. Et donc, en fait, il prétendait détenir l'éthique et le droit moral de ces artistes-là. Et donc, pour tout ça, pour se rendre compte, 8 ans après, qu'en fait, tout ça, c'est libre de droit. Mais bon, il faut prendre le pognon où il est, hein, je pense, voilà, c'est tout. Mais ça, il faut le dire, c'est important. Et donc, ils ont refusé beaucoup aussi de choses. Alors, je ne dis, dis pas que parfois c'est nécessaire, parce que c'est vrai qu'il y a des mecs qui ont quand même fait beaucoup de merde avec ça, en prenant des mélodies, en signant Gabriel Fauré, en mettant n'importe quoi dessus, qui ne fonctionne pas à la musique. Donc moi, j'ai toujours fait ça le plus de respect possible. Mais c'est vrai que quand la Fondation de France m'a écrit une lettre en me disant « Nous sommes très sceptiques quant à l'interprétation de la grande musique par des musiciens de jazz. » Et j'aurais simplement dit de regarder les scores et d'écouter la musique et de voir que je n'ai absolument pas touché une note des textes. À part que le problème, vous le touchez à l'instant, vous le touchez du doigt à l'instant, c'est-à-dire que la musique d'organiste est jouée par les organistes, les programmes symphoniques sont joués par les orchestres symphoniques, la musique pour voix est jouée, etc. Donc depuis des siècles, c'est comme ça. Donc là, il faut dépoussiérer un maximum. Et je suis content, moi, d'avoir permis, finalement, d'ouvrir un petit peu notre patrimoine au grand public. Puisque finalement, là, on fait de la musique classique pour des amateurs de jazz, quoi. Donc ils ont été un peu déstabilisés au départ. Puis après, en invitant Youssef avec Influence en 2005, on se rend compte que on fait de la musique. Il y a pas de... Qu'est-ce que c'est la différence? Est-ce qu'on se rend compte si c'est un compositeur classique qui a écrit ou Youssef Latif? On ne sait plus trop ce qui se passe. Et moi, je suis heureux d'avoir fait ça. Parce que peut-être que mes gosses, j'ai des gosses assez jeunes, peut-être qu'ils ont quelque chose à se mettre sous la dent dans quelques années. Voilà. Le but, il est là en tout cas, ça c'est sûr.
Thank you.
Sur ce troisième épisode, comment s'est fait la construction concrètement, c'est-à-dire le choix des pièces, l'écriture, l'arrangement, etc. Parce que c'est quand même assez titanesque. Et quand on écoute, comme c'est je le disais, au résultat final, il y a une sorte de voyage, il y a vraiment une globalité. On écoute ça de manière très limpide, on passe de l'un à l'autre, on passe de ces chœurs à des passages ou avec des pièces que vous avez composées de structure plus jazz entre guillemets et on revient aux voix et tout ça est d'une limpidité et d'une pureté. Il y a vraiment une mise en scène de j'imagine qui a dû prendre du temps.
Alors en ce qui concerne justement c'est ça le truc qui est incroyable, c'est que en fait je crois que ce soit Christophe ou moi, Christophe de Sassou ou moi, on ne s'est jamais posé la question de, pour tous les projets qu'on a fait, de savoir justement de choisir des morceaux spécifiques pour pas se répéter. Tout se fait naturellement. Alors j'avais un doute jusqu'en 2005, quand on a invité ce fameux Youssef Latif, que je n'ai eu au téléphone qu'une fois. Et en fait, on ne s'est jamais rencontrés. Youssef m'a dit au téléphone, j'ai une condition pour venir, j'ai une seule condition, c'est que je puisse écrire deux pièces pour le projet. Donc, on n'a pas réfléchi très longtemps.
Il n'y a pas conditions pires, on va dire.
Non, il y a pire que ça. Donc, il a écrit ces deux pièces. Donc, je ne savais pas du tout, on ne savait pas du tout quelles étaient ces pièces-là, comment il avait écrit, etc. Quel tempo ça allait être, quelle tonalité, parce qu'effectivement, quand on fait un disque, on pense normalement aux tonalités, ce ne sont pas toujours les mêmes tonalités, toujours le même tempo, les mêmes mesures, etc. Donc, on avait prévu de faire un disque avec Youssef Latif. Finalement, il y en a deux. Pourquoi ? Parce que quand on s'est retrouvé en studio, évidemment, on avait écrit trop de musique. Bon, moi, je voulais confronter Youssef avec la musique française et ensuite faire le même hommage que j'ai pu faire ou qu'on a pu faire au compositeur français avec sa musique. Il était un peu sceptique quant à revenir en arrière sur des compositions qu'il avait écrites en 57. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, ce serait bien qu'on refasse ces compositions-là, qu'on rejoue ces compositions-là, vues différemment, en gardant le texte qu'il était. Parce que moi, quand j'écoutais à 14 ans vos premières pièces... J'ai pas l'impression que c'était écrit en 57. Je veux dire, c'était d'une modernité, entre guillemets, une fois de plus. C'était incroyable de modernité. Les instruments traditionnels que vous jouez dedans, etc., ce serait intéressant. Donc, moi, c'est mon histoire. Vous faites partie de mon histoire. J'aimerais, en 2005, réorchestrer différemment et faire passer votre musique à travers le temps et qu'elle reste pas figée en 57 avec l'étiquette jazz, etc., etc. Voilà. Donc, quand Youssef est arrivé, il avait deux morceaux. On avait écrit, on a eu 6 morceaux de trop. Et l'anecdote qui est intéressante, c'est qu'on a enregistré, donc on avait 2 jours de studio, parce que vous savez, les studios sont chers. Mmh. On a une petite production sur Biflat, notre label, donc c'est pas facile. Donc 2 jours de studio, 2 disques. Enfin, normalement, on avait un disque, 2 jours de studio. C'était carrément à la fête. Et donc, premier jour, on enregistre le premier disque. Deuxième jour, on commence à enregistrer la suite de Youssef, avec ses 4 morceaux. Et puis, il y avait ces 2 morceaux en plus, où il y avait un trombone en plus. Il n'avait pas bien compris l'instrumentation. Donc je me suis retrouvé le lendemain matin du studio à téléphoner à Glenn Ferris en disant à Glenn, écoute Glenn, je suis super emmerdé, il y a Youssef Latif qui est dans le studio. Il me dit, qui ? Il y a qui ? J'ai dit, ben Youssef Latif. Le Youssef Latif, le saxophoniste. Oui, parce que... Et j'ai dit, voilà, je suis embêté parce qu'il a écrit 2 pièces pour trombone et on ne sait pas comment faire parce qu'on est... faire du re-recording, c'est hors de question parce que nous, on enregistre nos albums en live. Il est arrivé tout de suite. Entre-temps, on a vite refait une partie de trombone pour qu'il puisse participer au deuxième disque intégralement et pas que sur 2 morceaux. Voilà. Et donc, quand on a fait la liste des 2 disques, pour sortir les disques, on s'est rendu compte finalement qu'on avait enregistré les disques dans l'ordre. Et ça, on n'y a absolument pas pensé. Et là, j'ai dit à Youssef, mais comment se fait que ça se passe si bien, quoi, que tu arrives à des morceaux, on ne sait pas du tout ce que tu vas écrire, tu ne sais pas du tout ce qu'on va écrire non plus. Il me dit, tu sais, quand j'ai décidé de participer à ce projet, et qu'on a mis le crayon sur le papier, toi à Paris, moi à Boston, on était reliés, on avait décidé de le faire. Donc à partir de là, tout se passe bien, forcément. Là, c'est plus nous qui maîtrisons. Ah, j'ai dit, d'accord. Oui. J'avais envie de lui dire, mais alors, c'est qui ? Et j'ai rien dit, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. En tout cas, ça existe. Et pour le cœur, c'est exactement la même chose qui s'est passée. Voilà, il y avait des choses qui étaient très écrites évidemment. Le chef de chœur est quand même venu, il faut quand même le dire. J'ai un truc à dire très important, c'est que ça devait se faire normalement avec un chœur français qui a refusé le projet.
Pour des raisons artistiques, enfin, ça, peut-être, je ne sais pas si on peut rentrer dans les détails.
Alors, on peut le dire, citer le nom, ça ne servira à rien, je pense, mais c'était parce que la personne qui dirigeait le chœur n'aimait pas la musique française. Voilà. Et des chœurs, un chœur subventionné, évidemment, par la France. Donc, je dis ça parce que tout le monde m'a dit « Oui, vous êtes parti à Lettonie, ouais. C'est moins cher, etc. Ouais. » Non, parce qu'au départ, on devait partir avec mon frère et moi, rencontrer le chœur. Et il n'était pas question d'un disque au départ, il était question de faire un concert pour le printemps français en Lettonie. Donc du coup, je me suis dit, c'est vraiment horrible d'aller là-bas. Ouais, c'est horrible. Alors j'ai dit aux copains, est-ce que vous accepteriez, parce qu'il s'agissait quand même de 8 personnes à emmener là-bas, sans budget. Donc j'ai dit aux copains, une fois de plus, est-ce que vous accepteriez de faire ce projet-là, on va enregistrer en Lettonie. Ils sont tous venus tout de suite, on a pris un avion, on est resté une semaine, voilà. Et on a passé une semaine absolument merveilleuse, incroyable, avec des gens, avec un cœur. Ils ne sont pas encore à l'euro là-bas. Voilà. Comment... Ils ne sont pas encore pourris par le système.
Cette matière sonore vocale complètement hallucinante, ouais. Comment vous l'avez prise en pleine tête, j'allais dire.
Alors on a pris, mais en pleine tronche, pour dire le mot, parce que là,
c'est comme vous, on la baguette, s'attendait. D'une certaine manière. Donc,
on s'attendait à quelque chose d'incroyable parce que je connaissais le chœur, j'avais entendu les enregistrements. Donc déjà, je m'attendais à un truc hallucinant. J'avais rencontré le chef de chœur qui avait pris l'avion et qui était venu me rencontrer pour les tessitures. Donc j'ai dit, là j'entends un truc assez haut. Il me dit, t'inquiète pas, il y a au moins 4 personnes qui peuvent faire ça. Je dis, en bas c'est pareil. Youssef Latif, qui m'avait demandé s'il pouvait écrire un morceau pour le chœur, entendait un sol grave. Normalement, les basses, ça descend que jusqu'au dos. Donc on était un peu emmerdés. Donc j'ai dit au chef de chœur, il me dit, il y a 2 qui peuvent le faire. Bon, il m'a jamais dit, c'est ça qui est terrible avec ces pays-là et ces gens-là, ils cherchent toujours une solution. On va toujours trouver, ici on va vous dire, oh là là, mon Dieu, mon pauvre ami, vous vous rendez compte, vous avez regardé vos manuels, mais c'est impossible, ça n'est jamais si grave.
Là, on vous c'est dit, plus qu'un cliché, c'est une réalité finalement,
c'est une réalité, complètement. Totalement, c'est possible, on va essayer. Et ça, c'est merveilleux, parce que c'est ça la musique, la vie, pour moi, c'est ça. On essaie, on va essayer de le faire. Si on n'y arrive pas, on va essayer. Et donc on a réécrit en pensant, évidemment, à ce qu'il nous avait dit, etc., aux tessitures. Quand on est arrivé là-bas, évidemment, on est arrivé un petit peu en retard le premier jour de la répétition, parce qu'on est arrivé la veille, on a bu un coup, il faut le dire, il faut dire les choses comme elles sont. On était heureux, on était super contents, on a bu 2 coups, 3 coups, bon, et il faisait super bon. Et puis on est arrivé 10 minutes en retard, ils étaient tous prêts. Quand ils ont chanté la première note, et ça c'est vrai, on a tous les larmes qui ont coulé. Les larmes aux yeux, tous. C'est-à-dire que là, d'un coup, on s'est dit, putain, là on a des gens qui ont un niveau incroyable, parce qu'ils maîtrisent leur voix d'une façon hallucinante. Et on entend, finalement, il n'y a que des solistes, hein, ce chœur, me service de la collectivité. Il n'y en a pas un qui va chanter plus fort que l'autre, ce qui arrive souvent en France, parce qu'en France, il y a une hiérarchie, malheureusement. Il y a le soliste, puis après, il y a le premier machin au violon, machin qui a été puni, parce qu'il n'est pas soliste, donc il est puni. Le deuxième, alors, les contrebasses, c'est le calife. et les contrebasses, c'est carrément, ça n'existe même pas. Alors que, justement, dans un orchestre, chacun a sa part. Chacun a un truc important à y faire, sinon c'est pas possible. Et là, c'est exactement le cas. Là, c'était hallucinant.
Ils ont écouté le résultat final, c'est un projet qui, j'imagine, pourrait être un peu atypique aussi, d'une certaine manière. Comment vous avez un peu échangé avec eux, sur le résultat? Est-ce que pour eux, c'était une mission supplémentaire?
Ils ont été touchés. Non, ils ont été touchés parce que. D'abord parce que bon, nous on a ce côté, on a avant tout le côté humain. Quand les gens me disent pourquoi cet orchestre, je dis comment s'est réuni cet orchestre. Il s'est réuni d'abord, je voulais des gens qui aiment manger, qui aiment boire, qui aiment faire l'amour. Voilà.
Des gens normaux.
Je voulais des gens normaux parce que comment faire de la musique ou comment faire l'amour à quelqu'un qu'on n'aime pas. Bon. Oui, un petit rien coup un soir. Mm-hmm. Très bien, formidable, ça va être super. Pourquoi pas, hein, si on parle de sexe, il est important. Mais après, sur la durée et la longévité, c'est pas possible. Donc il me fallait, comme je voulais que ça dure un petit moment, le corniste François Christet m'a dit, en 2002, là, il m'a dit, écoute, je t'emmène, j'ai ce qu'il faut. L'orchestre n'est pas très grand, j'ai ce qu'il faut. Moi, j'avais dit dans ma tête ce que j'entendais comme instrument. Et il m'a dit, je t'emmène tout le monde, et le projet est né comme ça. Donc, on arrive là-bas déjà, à Riga, avec ses 8 mecs, 9, puisqu'il y a Dre Palmart aussi aux percussions, on arrive là super décontracté, on est prêt à faire de la musique, on est prêt à boire un coup, on est prêt à faire ce qu'ils veulent. Je pense qu'il y a déjà moins de problèmes qu'avec des gens psychorigides, parce qu'il y en a quand même qui sont chiants, qui vont dire non, là je veux pas ça, là je veux ça. Moi j'ai absolument rien demandé, j'ai juste dit au début de ces séances, on va essayer de faire de la belle musique pour rendre hommage à ces compositeurs qui nous ont laissé des très belles choses. Voilà. Voilà, c'est tout.
Alors je sais que c'est un mot un petit peu bâtard qui veut rien dire et peut-être dire quand même des choses, c'est le mot fusion toujours, alors qui n'est pas non plus un mot récent parce qu'il y en a d'autres, si on reste sur l'histoire dite du jazz, enfin, que ça soit je sais pas de Gil Evans, Bill Evans ou Günter Schuller avec le Third Stream, etc., enfin, Mingus, des tas de choses. Est-ce que ce côté justement, briser les frontières, mais pas juste pour le plaisir de les briser, mais parce que vous sentez les choses comme ça, c'est quelque chose qui a été toujours en vous depuis tout petit, ou ça s'est fait progressivement tout au long de votre carrière, de votre éducation musicale? Est-ce que vous avez eu des chocs? Il y a eu vraiment des moments de rupture par rapport à ça?
Je pense que ça remonte loin à mon enfance, parce que mon père est musicien déjà, et donc dans les années 70, il s'est installé dans un petit village, et donc dans ce petit village, on lui a donné des locaux pour faire de la musique. On lui a demandé s'il pouvait donner quelques cours de musique, puis c'est devenu assez important comme école. Et dans cette école, il n'a jamais parlé que de musique, c'est-à-dire qu'on n'a jamais parlé de style de musique. Je pense qu'avant d'arriver à Paris, à 27 ans, je ne parlais pas de style de musique. On ne parlait que de la musique. Mon père nous faisait jouer Beethoven, Georges Bizet. On est monté l'Arlésienne dans le village, on jouait Mingus, on jouait du bebop, on savait pas trop, et on jouait aussi de la fanfare. Parce que les locaux, en contrepartie des locaux, la mairie nous avait demandé si on pouvait faire les défilés patriotiques. Donc tous les mômes, et on se rend compte de l'importance de marcher au pas, de mettre tous le pied gauche devant, le pied droit. Alors après, on parlait de temps fort, de temps faible. Mais on s'en fout de tout ça. Ce qui est important, c'est le mouvement, c'est la danse, c'est le plaisir. Oui, mais le plaisir que procure, en plus de la musique, le mouvement. Et c'est important de danser. De danser dans sa tête aussi. Voilà. Les gens sont psychorigides aujourd'hui dans les conservatoires.
Est-ce que c'est quelque chose qu'on a perdu finalement et que,
totalement.
Aujourd'hui
totalement. C'est la déchéance totale. Alors non seulement on a perdu notre culture, et ça, moi, ça m'embête assez, parce que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, pour répondre à la question, je me bats pour que ces projets existent, parce qu'on se doute bien que ce n'est pas un projet très commercial. Par contre, c'est un projet qui va durer dans le temps. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelque chose qui dure dans le temps. C'est-à-dire qu'un môme, comme moi, quand j'étais môme, quand j'avais 12 ans, et je tombais sur un disque un peu atypique, et j'écoutais Youssef Latif, par exemple.
Oui, qui lui, en plus, en termes de fusion, a fait des albums assez précurseurs, on l'oublie.
C'est énorme, avec des mesures bizarres, des instrumentations bizarres. Il faisait jouer le bassiste d'une espèce d'instrument avec une corde qu'il avait attrapé en Afrique, ou je sais pas où, à Boston, à son magasin. D'ailleurs, j'ai une anecdote dessus pour les gens que ça intéresse. Quand j'ai rencontré Youssef, que je lui ai demandé où il avait acheté cette petite flûte qui joue sur tel album, ou ce petit ou Stargold égyptien, etc. Alors il m'a dit, la petite flûte, je pense que ça doit venir d'Inde. J'ai dit, ah bon, mais vous l'avez pas ramené d'Inde? Il m'a dit, non, j'ai un petit magasin en bas de chez moi, à Brooklyn, et il y avait le mec vendait des fourchettes, des assiettes, des paniers pour les chats, et puis il y avait des flûtes dans un pot. Donc j'ai essayé une flûte un jour, j'ai dit putain, le son est super et tout, je lui ai acheté, pas très cher, et voilà cet instrument. Il m'a dit que ça venait d'Inde, mais je sais pas trop d'où ça vient. Bon, j'ai dit, mais l'argol quand même, c'est l'Égypte. Ah non, pas du tout, c'est le même mec, un mec en bas qui m'a vendu un truc. Il m'a dit, oui, c'est un argol, je crois que c'est un truc égyptien, etc. Et il me dit, non, il n'y a pas beaucoup d'instruments que j'ai ramené des voyages, c'était en bas. Il me dit, moi, tu sais, du moment que ça fait un son, d'ailleurs, il y a un disque de Youssef où il joue de plusieurs instruments, et ils sont en quartet dans ce disque, et il y a écrit sur tous les instrumentistes, sur le batteur, drums, 7-Up, bottle. Et j'ai dit, ça. Il me dit, on avait soif, donc on avait bu des bouteilles de 7-Up, puis à un moment donné, elle s'était remplie à moitié, il y avait plus bu que d'autres et tout, puis on a essayé, et on a bâti un morceau avec ça. Donc moi, ce que j'aime, si j'ai ce mec-là, c'est que, et on a beaucoup de points communs, c'est que ce type-là, il est musicien de jazz né en 1920, jazz entre guillemets, qu'il a vu John Coltrane, avait 13 ans, et qu'il a dit d'ailleurs à un copain, ce mec-là, il a du talent, je pense qu'on va le revoir. Ouais. Donc il a tout fait, qui a fait Mingus avec Dolphy, il a failli rentrer chez Canbezi, il a fait Adderley, machin, il a fait énormément d'albums, et à chaque fois rattaché à son époque, c'est ça qui est vachement important, quelque part. Toujours attaché à une époque, avec toujours on entend toujours, comment je pourrais dire, de musique tribale, on entend la tribu chez lui, on entend des trucs très traditionnels, mais en même temps, toujours en relation en adéquation avec son époque dans laquelle il vit. C'est ça qui est important. Et ce type-là, pour moi, est énorme parce qu'il écrit aussi les Doctors in Music. Il a été docteur en musique avant Duke Ellington. On parle toujours de Duke Ellington. Il était docteur avant Duke Ellington. Le mec a 28 ans, il est docteur in Music. C'est rare pour un noir américain à cette époque. Mais il ne mélange jamais la partie écrite, donc quelque part, quelque chose d'assez intellectuel, et ça n'empêche pas de gerber dans le sax. Quand je dis gerber, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on joue du saxophone, lui, il joue pas que du saxophone. Tu vois, qu'il fait dans le sax. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire, ça. Il faut des 10 ans de travail. Et puis, il n'y a pas une méthode qui dit qu'il faut un peu vomir quand on a trop bu dans un saxophone. Non, mais c'est vrai, voilà, c'est ça. Pour moi, la musique, c'est ça.
Quel regard, vous, j'imagine, peut-être un peu pessimiste par rapport à ce que vous venez de dire, vous portez sur, même si vous aimez peut-être pas le mot jazz, mais quand on cherche vos albums, en général, ils sont plus au rayon jazz qu'au rayon métal.
Malheureusement,
Quel regard vous portez sur le jazz aujourd'hui, les jeunes musiciens, l'enseignement aussi a fait partie de votre parcours, peut-être que c'était pour un aspect, je sais pas, de transmission, je sais pas
totalement,
exactement la raison.
Totalement.
Ouais. Quand vous regardez aujourd'hui, et tous ces débats aussi sur qu'est-ce que le jazz... aujourd'hui, est-ce que c'est une musique de répertoire? Est-ce que c'est une musique qui est morte finalement? Est-ce qu'avec des albums comme les vôtres, on n'essaye pas de faire autre chose? Ça fait beaucoup de choses en même temps, mais... Ou est-ce que finalement vous êtes pris dans un flow, vous réfléchissez pas, ou votre réponse c'est je joue, voilà, je fais l'éclair dans le ciel, point final?
Alors, je fais l'éclair dans le ciel, point final. L'éclair dans le ciel, de toute façon, elle était inscrite justement dans une trilogie que j'ai commencé à 10 ans, mais j'avais commencé bien avant à réfléchir déjà à ce que je pourrais faire entre l'improvisation et la musique écrite, que la musique écrite ne soit pas trop figée, que l'improvisation ne soit pas trop improvisée. C'est pas facile. Le juste milieu n'est pas facile. C'est pas facile, c'est de laisser la liberté. Une on va dire 88% de liberté aux gens, mais en même temps, alors ça c'est en choisissant les musiciens, je vais répondre à la question en même temps, en choisissant les musiciens qui sont assez, des musiciens classiques, assez libres, pour pouvoir transcender l'écriture et se l'approprier, exactement comme un musicien de jazz va prendre une petite mélodie et en faire My Favorite Things, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, un truc très personnel. Et de l'autre côté, ne pas non plus brimer les improvisateurs dont mon frère fait partie, où mon frère j'ai écrit le minimum de, de choses finalement pour qu'il soit le plus libre possible dans l'improvisation, mais en même temps tout est pensé pour qu'il puisse être à l'aise. J'ai tout écrit en pensant à ce qu'il allait jouer et là où il se sentait le mieux. Je pense que l'écriture, ce n'est que ça. C'est pour ça que c'est très difficile d'écrire de la musique pour des anonymes. Donc là, je réponds à une partie de la question. C'est ce que je peux entendre aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent de la belle musique, mais j'ai souvent l'impression qu'elle n'est pas écrite pour eux. Voilà.
C'est mauvais, ils enfilent les mauvais costumes ou c'est...
C'est souvent un problème de... Je pense que c'est souvent un problème de casting. Seulement, mais d'un autre côté, un problème de temps aussi. Parce que j'entends des gens qui écrivent très très bien, des gens qui improvisent très très bien, mais ils n'ont peut-être pas eu trop le temps de répéter. Ils font, je sais comment ça se passe. C'est très difficile aujourd'hui de faire vivre cette musique. Donc ils font deux jours de répétition, ils font 10. C'est pas assez, c'est 10 ans. L'éclairage dans le ciel, ça arrive, ça s'écrit 10 ans après le premier enregistrement du groupe, de l'hymne au soleil.
Et c'est quelque chose qui bouge. J'imagine que quand vous réécoutez le premier album...
Ouais.
Qu'est-ce que vous ressentez? Donc quelque chose de figé, mais en même temps, c'est sur scène, ça a évolué.
Ça évolue exactement. C'est voilà. Donc voilà pourquoi on a fait ce disque qui s'appelle Clair Obscur, qui ne s'inscrit pas de la trilogie des trois disques, c'est-à-dire l'hymne au soleil, Influence avec Latif et maintenant avec Clair dans le ciel. C'est juste l'évolution d'un groupe. Quand j'écoute l'hymne, j'entends le disque qu'on a enregistré en 2002 avec les gens qu'il y avait à l'époque. Il y a eu quelques personnes qui sont parties du groupe depuis, mais enfin, j'entends quand même, surtout les liens remixés, parce que je l'ai remixé, parce qu'on l'avait raté, on avait raté le mix, et avec Christophe Dassasso, maintenant on fait nos propres mix, au moins on sait, voilà, on sait ce qu'on veut, et puis si on doit engueuler quelqu'un, au moins c'est facile, voilà, on peut s'engueuler tout seul, ça c'est vachement bien, mais j'entends, moi j'aime beaucoup cet album, parce que j'entends, c'est un album enregistré en deux après-midi, il y a de la fraîcheur, il y a toujours de la fraîcheur. Alors maintenant, on peut discuter, même moi, hein, je peux dire, oh, putain, là, on aurait pu faire ça, là, on aurait pu faire ça. Mais ce qui est important, c'est l'avoir fait. Et ce qui est important, c'est que le groupe existe 10 ans après. Voilà. Dans les jeunes aujourd'hui, il y a plein de talents. C'est énorme le talent qu'il y a. Ce que je déplore un petit peu, c'est souvent, je pense que souvent les gens pensent au concept avant de penser à la musique. Hein. C'est-à-dire, ce qui est très mauvais pour un être humain, là je ne parle plus de musique, c'est d'aller à l'encontre contre ce qu'il est. Quoi. On est ce qu'on est. Je sais ce que je dis, c'est un truc bateau total, mais il faut accepter ce qu'on est, voilà, avec ses faiblesses et ses qualités. On a plus de défauts que de qualités. Et Chet Baker, un jour, il a dit une phrase super. Il m'a dit, moi je suis un mec qui a beaucoup plus de défauts que de qualités. Par contre, j'ai réussi à transformer tous mes défauts en qualités. C'est là où je m'en sors bien. Tu vois, il m'a dit que je me suis cassé la bouche et que j'avais plus de dents. Au lieu de jouer sur 2,5 octaves, je joue sur 1 octave. Terminé, pas de problème. Mais il ne faut pas lutter. Et je pense que les gens luttent aujourd'hui. Parce que, pourquoi ?
Est-ce que vous avez des moments où vous avez justement...
Jamais.
Il n'y a aucun moment où vous avez l'impression de vous être menti à vous-même ou d'avoir...
Jamais. C'est-à-dire que le moment où je ne me suis pas menti, le moment où je me suis dit, tiens, je vais faire une expérience et que l'expérience m'a gonflé, je m'en vais.
Vous avez arrêté.
Voilà, c'est pas compliqué. Ceci dit, avec le recul, même les expériences où je me suis pas senti vraiment à l'aise d'un truc, j'ai appris beaucoup. Voilà, je veux dire, on apprend tous les jours. Il faut aller. Au contraire, il faut y aller, même si ça durait 3 jours, 2 mois, 2 ans, mais faut y aller parce qu'on retient forcément quelque chose d'intéressant et ça nous fait avancer, je pense.
Alors il y a aussi, donc, vous l'avez cité, ce clair-obscur, ouais. Aussi pareil, là on croise Mickey Graillet et Schoenberg, ouais. Des choses pareilles, ouais. On traverse, on prend la machine à monter le temps et avancer. Ouais. Comment c'est conçu cet album ?
Avec un choix commun, avec les musiciens, encore une fois de plus, c'est-à-dire que pour tout dire, pour être honnête, le morceau de Schoenberg par exemple, c'est un truc que j'avais prévu avec Youssef. Je voulais que Youssef, parce que Youssef, je sais que Youssef adore Schoenberg, et je sais que les gens ont a priori sur Schoenberg, la musique atonale, machin, etc. Là, dans ce morceau-là, on se situe dans les leaders encore de 1913, où ce qui est intéressant, en fait, pour moi, c'est que la mélodie est une mélodie très simple, qu'il n'est pas encore tombé complètement dans le système de l'autre côté. Alors après, on peut dire qu'il est tombé dans le côté obscur, tout ça, ça dépend de quel côté on se place. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une mélodie, et à l'intérieur, une mélodie très simple, et à l'intérieur, des choses incroyables. Je voulais mettre en avant, justement, cette mélodie écrite pour piano, parce que c'est écrit pour piano au départ, c'est une partie de piano. Dans les parties de piano, ces gens-là, là, vous parliez tout à l'heure d'orchestration. Comment s'est faite l'orchestration? Si, moi, il faut rappeler à tout le monde aussi que je suis un mec autodidacte. J'ai pris un seul cours d'harmonie, je ne sais même pas ce que c'est l'harmonie. Je sais distinguer la différence entre un accord majeur et mineur, tu vois, à peu près. Voilà, à peu près où j'en suis. Même si c'est pas vrai, je préfère comme, être comme ça. C'est peut-être pour ça que j'arrive à faire des projets aussi énormes, parce que parce que je sais pas exactement. J'entends un son, je sais que ça me plaît beaucoup, je vais m'immerger pendant, s'il faut travailler 12 heures ou 15 heures par jour, je le fais, je vois même pas le temps passer parce que je suis immergé dans le truc. Et puis je me laisse aller complètement dans la matière, et puis à un moment donné, ben, j'ai beaucoup de chance. Il y a peut-être des gens qui m'aident au-dessus, qui me disent tiens, fais ça, fais pas ça. Je me pose aucune question. Non, mais ça, c'est vachement important.
Est-ce que ça veut dire que... allez-y.
Pardon, oui, pour finir le tour de Schoenberg, c'est que c'était destiné à Youssef, et Youssef m'a dit, écoute, je ne comprends pas. Laisse-moi un peu de temps pour étudier, parce que je ne comprends pas où ça va, et pour le solo, parce que là, quand on parle de solo, justement, de solo dans le jazz, et quand on parle de musique horizontale, nous, moi, je suis toujours dans l'horizontale, pas dans le vertical. C'est-à-dire que depuis quelques années, quand même, maintenant, on apprend la musique verticalement. C'est horrible. C'est comme si on regardait l'horizon, je ne sais pas, la mer Méditerranée, puisque je suis du sud, mer Méditerranée avec la tête à l'envers. Quoi. Enfin, je vois la mélodie horizontale. J'écris une mélodie, deuxième mélodie, etc. Je ne vois jamais la musique verticale. Schoenberg non plus, d'ailleurs. Et des gens ont analysé la musique de Schoenberg verticalement. Et ils ont fait des milliers de bouquins pour fourvoyer les gens. Je veux dire, ils ont menti aux gens. La musique, c'est la mélodie, avant tout. Après, on construit une deuxième, une troisième, etc. Donc, Youssef m'a dit non. Donc, j'ai dit au mec de l'hymne, ça vous dit d'enregistrer le morceau de Schoenberg, parce qu'on ne l'a pas fait. Il dit, putain, super, tu as raison. Voilà. Alors là, c'était vrai que c'était pour un peu aider un peu Schoenberg dans sa démarche. Quoi. C'est-à-dire, c'est pas un intellectuel de bas étage, mais c'est un type qui est un grand monsieur de la musique, un grand compositeur. Voilà.
Est-ce que vous interdisez des choses? Est-ce que vous rentrez dans des pièces, du Ruffet, ouais. Lili Boulanger, la Schoenberg, vous parlez de musique, ouais, vous parlez de genre.
Ouais.
Est-ce que finalement, tout est au feeling, à la sensation, à l'envie avant tout,
ouais, c'est que ça.
Et éventuellement vous ouvrez une porte, vous dites bon bah non finalement je la referme et je sors,
ouais,
ou est-ce que à première vue tout est possible?
Oui et oui. C'est-à-dire que... Ouais, oui, oui. Pas oui, oui. Oui, oui. Parce qu'en fait, des fois, j'ouvre une porte. D'abord, je travaille à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on m'a toujours dit, il faut pour comprendre quelque chose, il faut écrire à quatre voix. Toutes les compositions étaient écrites à quatre voix. Une mélodie, une basse, et puis quelque chose à l'intérieur qui va définir si l'accord est majeur, mineur, ou quelques conneries comme des septièmes, des neuvièmes, des machins, enfin des couleurs, voilà, des couleurs. Parce que finalement, c'est majeur, la musique est majeure ou mineure, hein. C'est ta-da-da ou ta-da-da, et puis terminé, hein. Je veux dire, c'est deux couleurs principales. Après le reste, c'est des couleurs qu'on met par-dessus, alors, mais c'est comme l'arc-en-ciel, hein. Y a du bleu turquoise, du bleu ciel, du bleu, bon, etc., etc. Mais le truc fondamental, c'est une mélodie et une basse qui fonctionnent ensemble. Donc moi, quand je prends une pièce symphonique, une pièce de piano, un morceau de n'importe qui, de Coltrane, de Ras Silver, ce qu'on veut, je me l'écris à quatre voix pour comprendre, pour voir tout où le compositeur a voulu aller. Parce que c'est pas facile non plus. Le compositeur évolue. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu d'écrire quelque chose à l'état fondamental, très simplement, il va prendre d'autres voix pour justement que sa musique évolue et pas faire la même chose que son prédécesseur a fait. Mais au bout du compte, on revient à la même chose. On revient à un truc très fondamental et très simple. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ma vie, j'ai de cesse que de remettre toutes les choses fondamentalement à l'expression la plus simple de la mélodie. Pour comprendre Schoenberg, je suis allé au début du truc, c'est-à-dire des accords à trois sons, tout simple. Et après, je me suis dit, bon, ben là, il a réussi avec ça. C'est une manière de fonctionner. Maintenant, on peut analyser totalement différent. J'ai lu des analyses de ce morceau-là. Je ne suis pas allé jusqu'au bout, hein, sinon je vous parlerai pas aujourd'hui. On m'aura enfermé avec une camisole. Hein. Les mecs qui se lancent à un truc pareil sont très forts, hein, mentalement.
Voilà.
Non, mais c'est vrai. Ouais. Donc, oui, je referme des portes parce que je ne comprends pas. Parce que je ne comprends pas souvent l'œuvre. Mais, revenant deux ans, trois ans plus tard, quand j'ai pris des notes, en évoluant, je comprends le truc. Donc, il faut, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas conceptuel, la musique, c'est quelque chose de tous les jours, on fait, c'est comme un sport de haut niveau. On travaille tous les jours et à un moment donné, les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Quelque chose qu'on n'a pas compris cette année, on le comprend dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, dans 20 ans ou dans 100 ans. Peu importe, il faut donner du temps au temps, on a du temps. Hein ? Parce que moi, je crois qu'on va revenir, de toute façon, on n'a pas le temps de tout faire ici. Donc voilà. Et oui, après, sur la deuxième question aussi. Bien sûr. Bien sûr. Mais tout est possible du moment où les gens qui sont avec vous décident de faire l'effort, au moins, de faire l'effort, d'essayer de le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que sinon, j'arrive avec n'importe quoi dans mon orchestre, je dis au mec, lisez. Puis ça veut dire très très bien, hein, quand on est soliste, orchestre national de France, on sait lire de la musique. Lisez. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On fait comme eux, quoi. On joue la musique au kilomètre, comme ces orchestres qui sont payés outrageusement. C'est vrai. Et oui, et 90% de ces mecs-là deviennent des fonctionnaires. Donc voilà pourquoi cette musique n'évolue pas beaucoup aussi.
Thank you.
comment le contact de ces répertoires, on va dire atypiques pour un musicien dit de jazz, quand on est au contact, quel impact ça a sur votre voix personnelle? Votre voix, c'est le saxophone, c'est même si on parle d'écriture, d'arrangement, etc. Le moyen d'expression que vous avez choisi, c'est le souffle, c'est le saxophone. On a assez peu parlé finalement dans tout ce que vous avez dit. On a parlé beaucoup de musique en général, mais vous êtes saxophoniste quand même, ce qui n'est pas une honte. Hein.
Ouais. Non, bien sûr.
Ça mais n'est pas sale.
Vous n'avez que des bonnes questions. Merci. Et en plus que des questions qui tombent, qui sont très pertinentes. Parce que voilà pourquoi. Parce que le saxophone, je l'ai mis au rancard un peu pendant quelques années. Ce qui a motivé ma recherche de l'écriture aussi, ce sont mes enfants. J'ai un fils qui a 12 ans le 4 octobre. Donc il y a 12 ans, je commençais à penser à l'hymne au soleil, à écrire de la musique, plus que d'aller jouer dans les tournées. Parce que je voulais le voir grandir, tout simplement. Donc je me suis mis sur l'écriture et j'ai un peu moins joué que ce que je faisais auparavant. Parce que c'est vrai que j'ai énormément joué. Et au jour d'aujourd'hui, il a 12 ans, mes enfants commencent un petit peu à grandir et je suis en train de préparer, j'ai fini d'écrire avant de venir vous voir. Le répertoire pour un répertoire en quartet, un disque que je vais faire, je sais pas quand, mais très très très, très bientôt. Et là, je vais penser plus maintenant à une réflexion sur une petite formation et tout ce que j'ai pu apprendre sur l'écriture en grande formation ou sur tout ce que j'ai pu apprendre de comment je pourrais dire de matière. Je vais maintenant le plus à l'accès sur l'improvisation que sur l'écriture. Voilà.
Par rapport à votre instrument ?
Par rapport à mon instrument, par rapport à ma vision maintenant d'un petit groupe, qui est le quartet, qui n'est pas facile quand même, parce qu'on a quand même des prédécesseurs. Quand même. Voilà, donc pour l'instant,
vous faites votre
pas
bridge
prêt.
À vous, comme Sonny Rollins, vous allez sous le pont seul avec votre instrument, en essayant de faire le point.
Non,
vous allez sous le pont de l'Alma. Et
ouais, non, mais parce que moi je ne suis pas comme Rollins, parce que d'abord j'ai une chance, c'est que mes voisins ne me disent rien quand je joue du sax chez moi. Lui, il n'avait pas cette chance-là, c'est pour ça qu'il était obligé de se barrer sous le pont. Mais moi j'ai appris à travailler dans le bruit, parce que mes enfants se régale autour. Chez moi, je travaille la même pièce. Je me suis habitué, en fait, à avoir plein de bruit et de m'isoler. Je peux travailler au milieu d'un chantier, en fait, maintenant. Mais c'est vachement important, hein, parce que c'est le bordel à Paris, quand même. J'ai des travaux depuis 4 ans chez moi, un coup à gauche, un coup à droite, partout. Donc, je me suis habitué à me mettre, comme au Rollins, d'ailleurs, sur le pont. Hein, parce que finalement, c'était pire sur le pont que chez lui, avec les hélicoptères qui passaient. Et vous connaissez l'histoire de Steve Lacy?
Non, vous allez nous la raconter.
Qui est magnifique, ça, elle est magnifique, parce que Steve Lacy, qui adore Rollins, le son de Rollins, un jour il veut rencontrer Rollins, il va chez lui, il n'est pas là, il y a un voisin qui lui dit il est sur le pont. Il faut aller sur le pont, donc il va jusqu'au milieu du pont, il y a un bruit, les bagnoles partout, des bateaux qui passent dessous, des hélicoptères et tout ça. Et puis il entend un sax en train de jouer. Mais il était loin, il était super loin, mais il entendait le sax quand même. Il va au milieu du pont, et là il va Rollins en train de jouer du ténor. Et il dit à Rollins, voilà, je voulais vous rencontrer parce que j'adore votre son. Je dis, c'est incroyable le son que vous avez sur un saxophone. C'est fou. L'autre lui dit, prends ton sax et souffle. Il prend le saxophone. Il souffle, mais on ne l'entendait pas. Parce qu'il lui dit, voilà, j'ai répondu à ta question. tu vas avoir mon son, mets-toi au milieu du pont et souffle au milieu du machin. Et quand tu entendras, tu auras un son. Voilà. C'est ce que je pense que ça fait Lacy, de toute façon. Voilà.
Est-ce que vous pensez que c'est un saxophoniste qui a écrit, qui a arrangé D'éclairer dans le ciel et tous ces projets? Est-ce que vous aviez le. Parce que vous avez dit, j'ai un peu mis effectivement un peu en quart, je me suis un peu éclipsé. Est-ce que vous l'êtes malgré tout? Vous pensez que c'est filtré via cela ou pas spécialement?
Non. Franchement, je vais vers les choses qu'elles se présentent. Et c'est bien que vous me posiez des questions, parce que ça me fait réfléchir aussi un peu à tout ça. Mais en fait, je me rends compte...
Si dans la nuit, soudainement...
Mais je me rends compte, j'ai réfléchi à rien, en fait. Moi, quand on me propose quelque chose qui me paraît intéressant, j'y vais à fond dedans. Par exemple, là, on a un projet qu'on a peu joué, mais que je pense qu'on va réaliser bientôt. C'est, on fait un hommage, je suis en train de finir d'écrire un hommage à Jerry Garcia, Grateful Dead. Ouais. Et donc, ça n'a rien à voir avec Avili Boulanger. Quoique, Je veux dire, quelque part.
On peut toujours trouver.
Quelque part, oui, parce que quand on commence à relever la musique de Jerry Garcia, on se rend compte que ces mecs, ah oui, qui étaient complètement shootés. Ouais. C'est LSD, vrai, de jour et nuit, ouais. LSD à fond, toute la journée, toute la nuit, on se rend compte qu'il y a un travail d'écriture incroyable chez eux. Hein. Tu relèves un truc des Dead, tu dis, c'est pas possible, il y a des mesures au milieu infernales. Je dis, putain, ouais, d'accord. Effectivement, quand on écoute les albums, elles disent ça, il faut pas n'importe quoi. Quand ils jouent, on a l'impression qu'il faut n'importe quoi, ça dure, l'intro qui dure 4 oui, heures, oui. Tu vois, mais en fait, c'est très, très écrit et très construit. Donc, pour moi, il y a pas de, y a très longtemps qu'il n'y a plus de il n'y a plus de style. Pourquoi ? Parce que tous les gens que je rencontre, de, entre guillemets, de différentes cultures et différents styles, finalement, écoutaient la même chose. Quoi. Je suis sûr que j'aurais parlé à Jerry Garcia, on pourrait parler de Gabriel Fauré, mais c'est sûr et certain. Quoi. Mm. C'est évident. Mm. C'est évident. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que la musique, finalement, la musique de jazz, elle a évolué. La musique le rock, les Pink Floyd, c'est quoi leur référence ? C'est ce qu'il y a eu avant. Ces gens-là n'ont jamais... renier leur famille. Jamais. Ils sont toujours servis de ce qu'il y avait avant pour faire quelque chose pendant et pour après. Quand on renie quelque chose, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? À moins qu'il y ait un génie. Peut-être aujourd'hui, il y a un génie qu'on ne connaît pas. Je n'ai pas vu encore. Peut-être qu'il y a un mec monstrueux aujourd'hui qui va révolutionner. Mais quand on me posait la question tout à l'heure, le jazz est mort ? Oui, le jazz est mort. Le jazz tel qu'il était, il est mort. Mais il est mort avec des gens qui l'ont fait. Avec des gens qui l'ont vécu. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'on joue comme a joué Charlie Parker, qui est mort à 35 ans, dans la vie avec elle et la... On ne mène pas cette vie. Moi, j'habite dans le 9e arrondissement. Je suis un bourgeois. On est tous des bourgeois. Musiciens de jazz, des bourgeois révolutionnaires.
Certains bourgeois non, mais, font tu vois, non, moi, faire de la bonne musique aussi, ça peut
arriver. Ouais, non, moi je dis ça ouais, parce que j'aime bien habiter à ce quartier de
la preuve avec ce
de bobo, je m'en régale, parce que je m'en régale de les faire chier en fait, d'habiter là. Mais c'est vrai qu'on peut plus jouer cette musique comme on l'a jouée dans les années 50 ou 40. C'est fini. Donc il faut passer à autre chose. Donc moi, en faisant ce travail-là, je me retrouve plus, finalement... Je me suis plus retrouvé avec ce travail d'écriture qu'en jouant du jazz, entre guillemets, qui me satisfaisait pas pleinement. Peut-être, je dis bien peut-être, que le travail que je vais accomplir les mois prochains sur ce projet en quartet, peut-être que je vais m'en régaler et trouver quelque chose de... Si je trouve pas, ben je ferai autre chose. Hein. Là, j'annonce ça aujourd'hui, mais ça se trouve, ça se fera pas parce que c'est pas bon, c'est pas possible, que ça ne convient pas.
On se reverra. Donc ce projet, voilà. Le projet aussi, la musique du Dead, du ouais. Garcia, il y a d'autres ouais. choses également dans les mois, les à venir qui vous tentent, vers lesquelles vous avez envie d'aller. Est-ce que par exemple, là, ce chapitre musique française, vous voulez un peu le mettre voilà.
Mais ça, je ne le mets pas de côté parce que le quartet, en fait, il va être bâti là-dessus aussi. Y aura quand même ce son-là, même si ce ne sera pas un son liturgique, mais il y aura quand même un son français voilà, à l'intérieur d'un quartet, parce que j'aime me servir évidemment de tout ce que j'ai appris. Il y aura évidemment beaucoup de parts d'improvisation. Ça va être construit un petit peu comme Wayne Shorter a construit son quartet, c'est-à-dire que. Wayne Shorter, ce qu'il faut savoir, ce qu'il écrit, il y a énormément de choses écrites dans un quartet aujourd'hui. Les gens ne le savent pas, ils croient qu'ils partent comme ça, qu'ils ont un super niveau. Même les musiciens, ils croient que c'est super improvisé. C'est improvisé, certes, mais d'abord, Wayne fait écouter à tous ses musiciens depuis le début du quartet. Il arrive un jour, par exemple, avec une symphonie de Brahms, il donne une copie d'une certaine symphonie de Brahms aux membres du quartet. Ils écoutent tout ça pendant... Un mois, deux mois, j'en sais rien. Et à un moment donné, il arrive avec un truc inspiré de ce qu'il leur a fait écouter. Un module, quelque chose qu'il a tiré de cette musique-là, mais qu'il leur a fait écouter. C'est pas que de la musique écrite, tu vois, il faut qu'il l'intègre. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc, une partie écrite, mais cette partie écrite va déclencher quelque chose qui va les amener à voyager au-delà du temps, au-delà du simple fait d'avoir pris un module quelque part chez quelqu'un.
C'est quelqu'un d'essentiel pour vous, Shorter, parce que c'est vrai que c'est un grand compar, le saxophoniste. Ouais. C'est un grand compositeur, surtout
grand compositeur.
Déjà,
très
grand encore compositeur. Aujourd'hui, et pas contrairement peut-être à certains autres, si on prend la même génération comme Herbie Hancock, qui a peut-être un peu plus tendance à se reposer sur ses lauriers, notamment dans
c'est
ses
vrai.
Projets discographiques.
C'est vrai, on est bien d'accord.
Il ambitionne encore des choses, il fait des albums, il a encore fait, ouais. Il y a peu de temps, des albums assez ambitieux, qui parfois c'est d'ailleurs ont été perçus bizarrement.
Forcément.
Il fait encore des choses étonnantes, parce que c'est un personnage qui vous semble vraiment passionnant et qui continue. Moi, vous avez parlé de Youssef Latif, évidemment,
oui, oui.
Mais qui est aussi...
Mais moi, j'ai toujours été passionné par Wayne, parce que c'est le premier qui m'a fait découvrir Jean Sibelius. Là, il joue un morceau Sibelius qui s'appelle La Valse Triste. Je crois que c'est en 62, 63, un truc comme ça. Moi, je suis né en 63, donc je prends ce disque, j'écoute La Valse Triste. Les premières années, ça a remarqué, je croyais que c'était lui qui l'avait écrit. Et ça aurait pu être lui qui l'a écrit d'ailleurs. J'ai vu Jean Sibelius, j'ai acheté Jean Sibelius. Donc finalement, je suis venu à la musique classique grâce à des gens comme ça, qui, en laissant des petits messages sur les disques, ou dans le liner notes, certains, ils parlent de Scriabine. Oui. Je dis, ah bon, d'accord,
ok. Des indices comme ça.
Voilà, qui c'est, etc. Donc on va chercher. Donc important, parce que c'est des gens, d'abord, que ce soit Wayne Shorter, et c'est pas parce qu'il joue le saxophone, parce qu'il y a d'autres instrumentistes aussi qui font autre chose, mais que ce soit Wayne Shorter ou Youssef Latif, d'abord, ils ont le mérite d'être en vie. C'est vachement bien. Donc on peut parler avec eux. Et Wayne, qui est quand même passé par la période Weather Report, donc quand même, quoi, c'est pas rien, quoi, avec Zawinul. Ils ont quand même fait quelque chose qui a un peu révolutionné cette époque-là. C'est quand même énorme, ce groupe-là.
Et puis,
le
deuxième quintet de Miles aussi, qui est dans le genre
c'est un peu révolutionnaire, voilà, déjà, pas mal aussi. Déjà, c'était énorme. Bon, Miles qui a eu cette intelligence de prendre des jeunes, leur dire, allez-y.
Et de les laisser s'exprimer, ouais,
voilà.
C'est ça.
Et il a même été assez gentil pour leur laisser signer les compositions, alors qu'avant, il les prenait pour lui. Bon. C'est vachement bien. Et donc, après, il y a Weather Report, ça. Et Wayne revient à la formule en quartet. Et je me souviens de cette époque-là. Je me souviens parce que on a vu Danilo Pérez à l'époque où Wayne l'a engagé. Et il nous a dit, à mon frère, il nous a dit, mais il m'est arrivé un truc incroyable. Wayne Shorter vient de m'appeler, il veut remonter le quartet. Donc là, je suis avant tout le monde. Quoi. Il était comme un fou. Il y croyait même pas. Il croyait même pas que c'était possible. Et à cette époque-là, Wayne avait écrit un projet avec des cordes, etc. Un projet assez ambitieux. Et donc, il a été obligé de choisir à un moment donné entre le truc symphonique, assez, entre guillemets, assez classique, etc. et son quartet. Je pense qu'il a bien fait d'aller vers le quartet. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il ressort encore des thèmes qu'il a joués dans les années 60. Et il nous en fait encore. Le premier concert de Wayne, j'ai entendu, je ne sais plus quel... Si, c'est... Da 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 do di da 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 di da 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 di da da. C'est un truc qu'il avait enregistré dans les années 60 et Messengers sur High Life. Il le reprend, arrangé complètement différemment. Il le reprend en quartet, il refait encore autre chose. J'ai mis 10 minutes ou un quart d'heure, la première fois que j'ai vu le quartet de Wayne, à reconnaître le thème, quoi. Donc voilà pourquoi il est important. Parce qu'il fait passer sa musique à travers les âges, en renouvelant complètement à chaque fois et en faisant quelque chose de nouveau. Il est essentiel, évidemment qu'il est essentiel. Et en plus, il fait le choix de jouer encore de la musique, entre guillemets, de jazz. Ce que Don n'a pas fait, parce que je pense que ça rapporte plus d'argent de faire autre chose que ça. Voilà, c'est tout. Donc c'est un mec, pour moi, totalement intègre. Avec Youssef, qui s'est retiré de la campagne de Boston, et qui sort de temps en temps, qu'on a ressorti de derrière le... Tout le monde croyait qu'il était mort, Youssef Latif. Quand même. On m'a dit, mais il est mort. Comment tu peux l'inviter? Il est mort. Voilà, je suis content d'avoir ressuscité un mort. Déjà.
Alors, traverser les âges, donc je rappelle que c'est possible en écoutant notamment des clairières dans le ciel ainsi que Clair Obscur qui sortent tous les deux sur votre label qui s'appelle Blue Flat.
Ouais,
un label, c'est, on n'en a pas parlé. Avoir son propre label, ça, c'est important. C'est surtout, j'allais dire, quand on est rentré dans les années 2000 ou avec l'industrie du disque et le concept de label est un peu, un peu chahuté, pour ne pas dire plus.
C'est largement foutu, hein. mais c'est vrai. Mais bon, le label, pourquoi? Parce que, tout simplement, parce que quand on a fait l'Hymne au Soleil, on est allé voir à l'époque quelques labels que je peux citer d'ailleurs, qui l'ont regretté après d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas compris sur le coup ce qui se passait. Puis il y en a certains qui n'avaient même pas écouté, qui n'avaient même pas écouté la musique. Que non, homme, ça va, on a assez comme ça. Puis en 2002, ça marchait encore un peu, donc on peut se permettre de jeter tout le monde. Donc on s'est fait jeter chez Dreyfus. Blue Note nous a dit, je vous rappelle, 6 mois après, ils n'ont toujours pas rappelé, etc., etc. Et puis un jour, mon agent me dit, écoute, je connais un type qui s'appelle Olivier Lacour, mais qui fait plus de la techno, il est plus vers la techno, tout ça. On peut peut-être le rencontrer. Je dis, mais écoute, allons-y, allons le voir. Bon. Et donc, on discute avec cet Olivier. Olivier nous dit, écoute, moi, je comprends pas du tout ce que c'est. Moi, la musique classique, ça me fait plutôt chier. Le jazz, je connais pas trop. Mon père en écoutait un peu. Bon, mais sans plus. Par contre, ça, je sais pas ce que c'est, mais ça me plaît, quoi. Ça me plaît beaucoup. Voilà. Et je dis, putain, mais c'est génial. C'est exactement ce que je voulais t'entendre.
Ouais.
Mais oui, c'est ce que je voulais entendre dire. Je sais pas ce que c'est, mais ça me plaît. J'ai dit, putain, mais ça, c'est
génial.
Un beau
compliment pour vous.
Ah ouais, moi, j'étais super heureux. J'ai dit, ben, écoute, au moins, on a réussi ça pour une personne. C'est déjà pas mal. Et donc, du coup, il m'a dit, ben, moi, je voudrais le produire. Je voudrais le sortir. Je dis, ouais, mais là, c'est super, sortir, c'est super. Mais si on avait un label et si on pouvait agir. Bon, là, j'étais un peu dans le. Je rêvais un petit peu à l'époque. En 2002, je pensais que j'allais pouvoir aider tous les jeunes musiciens, les jeunes musiciennes. Voilà, qui n'ont pas la chance d'enregistrer, c'est pas facile d'être engagé sur un label ou voilà. Même à l'époque. Et bon, là, c'était un peu difficile parce que après, ça, bon, vous savez ce que c'est. Hein. Mmh. On a été confronté à des problèmes d'argent. C'est des projets quand même qui coûtaient relativement cher, mais on est quand même parti à l'aventure. Et Olivier Lacombe a toujours suivi parce que emmener 8 personnes à Riga pendant 7 jours. Est-ce qu'ils boivent les mecs? Je te raconte pas ce que ça nous coûte, tu vois. Non, mais c'est vrai. Non, mais. Alors, mis ça, c'est quand même vachement onéreux, quoi, de faire des projets. Et les projets Nascimento aussi, ça, c'est pareil. C'est un truc, tout le monde dit, on n'aurait jamais dû le faire parce que pécuniairement, c'est trop cher. Mais c'est fait. Je crois que l'important, c'est l'avoir fait. Alors maintenant, moi, je suis super content de notre rencontre, là, parce que déjà, il y a un truc qui m'emmerde au plus haut point, c'est le CD. On se fait chier pendant une partie de notre vie, ou même toute notre vie, à essayer d'avoir un son sur un instrument. Et puis à un moment donné, on nous met ça sur un CD qui écrase tout. Et,
surtout pour cet album-là, putain, en plus, qui demande tout sauf de l'écrasement.
Ouais, c'est super dur. Et c'est vrai que là, depuis que j'ai découvert Cobuzz, et qu'on peut avoir enfin des trucs en 24... À 24 bits. Ce qui est incroyable, et là ça me tue, c'est encore le marché du fric qui est pourri. Quoi. Ça fait peut-être 15 ans qu'on est sur un CD à 700 MO. Quoi. Donc, c'est la question que je pose à tout le monde. Pourquoi on n'a pas fait un CD à 1 giga maintenant, qu'on puisse avoir un peu plus de
corps.
Ben oui, parce que là, on ratatine tous les aigus, les graves. Voilà, donc je suis content d'avoir finalement remasterisé ce disque en 24. Putain, ça sonne vachement mieux. Hein.
Ben voilà, donc vous faites. Tout est dit, donc d'éclaireur dans le ciel, et également donc Clair Obscur qui sort également durant le mois du mois d'octobre.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci Lionel Belmondo, merci.
C'est moi.
contrebasse.com. Rencontre par Marc Zisman.